Europe 1. Europe 1,
14h, 15h.
On de la raconte.
Bonjour à tous. Ce matin, les médecins de l'hôpital de Reims ont donc engagé le processus de fin de vie de Vincent Lambert, qui se trouve depuis 11 ans après un accident de voiture dans un état végétatif. Les médecins ce matin ont cessé de l'alimenter et de le nourrir, et pour s'assurer qu'il ne souffre pas, ont commencé ce qu'on appelle une sédation à base de morphine. Vincent Lambert, si le processus se poursuit, devrait mourir dans les jours qui viennent. Face à ce cas, chacun d'entre nous a une opinion, bien sûr. Eh bien aujourd'hui, demain, je vous propose de mettre votre opinion de côté, d'ouvrir grand vos oreilles et de vivre une expérience qu'à titre personnel, j'ai trouvée absolument passionnante. Demain, je vous raconterai l'histoire de Vincent à travers les yeux de sa mère, Viviane, qui s'oppose à son euthanasie. Histoire que je vais tirer de son livre paru chez Plon, Pour la vie de mon fils. Et aujourd'hui, je vous propose la même histoire, mais racontée par sa femme, Rachel, qui souhaite, elle, laisser partir son mari, dans le cadre du processus de fin de vie qui a été amorcé par les médecins ce matin. Histoire que je tire de son livre, Vincent, parce que je l'aime, je veux le laisser partir, paru chez Fayard et qui est édité aujourd'hui en livre de poche dans la collection J'ai lu. Bien entendu, j'aurais beaucoup aimé débriefer cette histoire avec Rachel Lambert elle-même et demain avec sa mère. Et évidemment, je comprends que le moment est sans doute mal choisi, mais j'espère que nous le ferons un jour. J'ai donc fait appel pour le débrief de l'histoire d'aujourd'hui à un médecin, le docteur Grégoire Moutel, que je salue, qui est là au téléphone. Bonjour docteur.
Oui, bonjour.
Vous exercez au CHU de Caen, en Normandie, et vous êtes un spécialiste de ce qu'on appelle l'éthique médicale. On se retrouve tout à l'heure. Voici donc Vincent Lambert, raconté par sa femme. Réalisation de Céline Lebras.
Europe 1, Christophe Ondelatte.
La première fois que je vois Vincent, je suis étudiante infirmière à Mont-Saint-Martin, en Lorraine, au service psychiatrique de l'hôpital. Drôle d'endroit pour une rencontre. Drôle d'endroit pour trouver l'amour. Je le vois dans le couloir, une silhouette élégante. J'ai 21 ans. En amour, je ne suis pas très experte. Mais dès que je le vois, il me séduit. Il m'attire, mince, brun, les yeux marrons presque noirs, ténébreux, sombres, un peu à part, plein de mystères. Et inaccessible, 5 ans de plus que moi, déjà infirmier, lui. En plus, il fait beaucoup de nuit, et moi, le jour, au début on ne fait que se croiser, se frôler parfois. Un sourire, un regard, un bonjour timide, mais moi à chaque fois, j'ai la boule au ventre, j'ai le cœur qui s'affole. Ensuite, j'ai mon diplôme, et je demande à rester en psychiatrie. Et nos contacts deviennent de plus en plus chaleureux. Quand il est de garde le soir, je traîne un peu, juste pour entendre sa voix. Et je remarque qu'il me regarde de plus en plus souvent. C'est parfois timide, hein, parfois un peu plus insistant. Il devient ma raison d'être là. Et puis un jour, il commence à m'écrire des messages, la nuit, quand il travaille. Et le matin, quand je prends la relève, on est un peu gêné. Je suis sur un petit nuage. Et un soir, 2 ans après notre premier regard, nos lèvres se rencontrent. Au début, pas question de s'installer ensemble, mais je vais de plus en plus chez lui, et puis un jour je reste. Un jour, je me souviens, on est en voiture. On va à Center Parcs pour son anniversaire, ses 29 ans. Et Vincent se met à parler de sa famille, avec froideur. Une fratrie de 9 enfants, un environnement catholique traditionnaliste, une morale qui étouffe, la pension jeune dans un établissement hors contrat près de Carcassonne. Il me raconte tout ça d'un ton monocorde, sec, sans affect. Vincent, au début en tout cas, ne veut pas se marier. Alors nous décidons de nous paxer au tribunal d'instance de Longwy. Je reconnais qu'il y a plus romantique. De retour à la maison, il me prend par le bras. « C'est l'heure de nous offrir nos petits cadeaux, Rachou ?» Et là, il me tend la bague qu'on a choisie ensemble sur Internet. Une alliance toute fine, en or blanc. Et moi, je lui offre un petit cendrier. C'est pas grand-chose, hein. On avait dit juste un symbole, juste pour marquer le coup. Vincent me l'a souvent répété. Il ne veut pas d'enfant. Je peux l'entendre, même si c'est difficile pour moi. Alors ben, je ne lui en parle jamais. Je ne lui forcerai pas la main. Et puis au fil du temps, l'idée fait son chemin. Il me dit qu'il se voit bien papa d'une petite fille. Il est prêt à changer tous ses plans. Ah, je veux des enfants, Rachou. Et quand ils seront grands, hein, quand on les aura élevés, quand notre amour aura passé l'épreuve du temps, eh ben on se mariera. Et nos enfants seront nos témoins. Mais ça va plus vite que prévu. Un après-midi, on va choisir nos alliances dans une bijouterie de Reims. Celle-là, elle est pas mal, non?
Ouais, j'aime bien.
Mais elle est un peu trop voyante, non? Tu trouves pas? Je voudrais quelque chose de plus fin, de plus raffiné. Tu veux une bague qui te ressemble, en fait. Nous décidons de nous marier à l'église. Moi aussi, je viens d'un milieu catholique. Adolescente, je croyais en Dieu. Pendant plusieurs années, je suis allé aider les malades à Lourdes. Et c'est d'ailleurs là-bas que j'ai choisi le métier d'infirmière. J'ai toujours eu une forme de foi. Et j'ai conservé une spiritualité. Mais je refuse le dogme. Et le 14 avril 2007... c'est mon père qui me conduit à l'hôtel. Et je pleure de bonheur. On se jure de rester ensemble jusqu'à la fin de notre vie, quoi qu'il arrive. Ça y est, je viens de passer ma première échographie. Le médecin pense que c'est une fille. On l'a vu bouger sur l'écran. On a vu son petit cœur qui bat, sa petite tête, ses petits bras. C'est doux d'être maman. Je suis fier d'être la mère de cette petite fille. D'être la mère de sa fille. Et maintenant, on vit dans une bulle de bonheur. Vincent, le bébé et moi, notre famille. On s'est répartis les rôles. Moi, j'allaite, et lui, il change le bébé. Tout à l'heure, dans la chambre, j'ai bien ri. Je l'ai vu se faire tremper des pieds à la tête par notre fille. Pas du tout dégoûté, hein. Au contraire, épanoui, en vie. Ces deux premiers mois de maternité sont les meilleurs moments de ma vie. Même si je ressens comme une menace, fugace, la crainte inexplicable que tout s'arrête. Le 29 septembre 2008 au matin, j'habille ma petite fille de sa plus jolie robe et Vincent la prend en photo. On l'a baptisé il y a quelques jours, on enverra la photo aux invités. Ensuite, Vincent fait une petite sieste dans le salon, 20 minutes, pour affronter les heures de garde. J'adore le regarder dormir. Ensuite, il monte à l'étage, il embrasse la petite, endormie dans son berceau.
« Dis, Vincent, je dois aller faire des courses à Chalon. Tu veux que je te dépose à l'hôpital ?»«
Ouais, c'est sympa, comme tu veux. »«
Ah mais non, en fait, tu vas pas terminer avant 21h, c'est ça ?» Non, pour le bébé, ça va faire trop tard.
Ok, on remet ça à demain.
J'y vais. Vite ce soir de trop près de vous. Allez. Je t'aime.
Je suis encore en peignoir. Je suis en train de monter dans la chambre. Je me dis que ce sont les voisins. Alors j'y vais pas. J'ai ma fille dans les bras. J'ouvre. Je vois des gendarmes.
Bonjour madame, je peux entrer? Vous pouvez poser le bébé?
Voilà, votre mari a eu un accident de la route. C'est assez grave, le pronostic vital est engagé.
Vous pouvez aller à l'hôpital ?
Je prépare la petite. Un sac avec des couches. Je suis en mode automatique.
Madame, vous ne pouvez pas y aller toute seule. Quelqu'un peut vous accompagner ?
J'appelle une amie. Et nous voilà donc aux urgences de l'hôpital de Châlons.
Bonjour. Mon mari vient d'avoir un accident.
On m'autorise à le voir, brièvement. Inconscient, perfusé, branché, intubé. Et un médecin du SMUR demande à me voir.
Bonjour madame. Voilà, je suis le docteur qui était sur les lieux de l'accident. Votre mari a eu un traumatisme crânien. On lui a fait un scanner. Il a une lame de sang au niveau frontal, bien distincte. Il faut absolument que le sang s'écoule.
Et il va s'en sortir ?
Il sera placé en réanimation quelques semaines. Ensuite, il fera de la rééducation.
J'ai prévenu sa sœur et son demi-frère qui vient d'arriver. Je suis à la fois inquiète et rassurée. Il est à l'hôpital entre les mains des médecins. Il sera hospitalisé quelques semaines. Et après donc une bonne rééducation, il s'en sortira.
Madame Lambert, bonjour. Je suis le médecin réanimateur qui a pris en charge votre mari. Venez, venez avec moi, suivez-moi. Bien. Voilà comment les choses se présentent pour votre mari. Je vais être très honnête avec vous, il y a quatre possibilités. Soit il s'en sort sans aucune séquelle. C'est possible. Soit il décède. Soit il s'en sort avec une perte de sensibilité, probablement l'un de ses sens très amoindri. Soit il ne se réveille pas tout en restant vivant. Pour l'instant, on ne peut pas connaître l'évolution.
Moi, je n'entends que deux issues possibles. Vivre ou mourir. Il peut pas mourir à son âge. 32 ans. Notre fille vient d'avoir 2 mois. J'en ai 27. Il va pas mourir. Il ne va pas mourir. Il va vivre. Il disait toujours, je vais mourir jeune. Il vivait avec ça. L'idée de la mort toute proche. Il pensait que tout pouvait s'arrêter du jour au lendemain.
Vous devriez rentrer chez vous, madame. On vous appellera pour vous donner des nouvelles. Allez vous reposer, vous et votre bébé.
Je suis là, immobile devant cette chambre du service de réanimation. J'ai peur de passer la porte. J'ai peur de ce que je vais voir. Notre fille est endormie dans son couffin. Allez, il faut que j'affronte la réalité. Vincent est là, plein de tuyaux.
Je suis là, mon Vincent. C'est moi. C'est ta Rachel.
J'ose à peine effleurer sa main. Je ne sais pas combien de temps je reste là. Je suis sidéré. Mais ma fille a besoin de moi. Je me lève, je sors, elle a faim. L'allaitement, c'est la vie. Peut-être que ça le ramènera à nous. Je suis désormais funambule sur le fil du coma de Vincent. Maintenant, je vis au rythme de Vincent, au rythme de la réa. J'ai droit à 2 visites, une en début d'après-midi, une en fin d'après-midi. Ça fait 10 jours maintenant. Son pronostic vital n'est plus engagé. Il va vivre. L'équipe vient d'arrêter la sédation. Il ouvre les yeux, péniblement. Son regard est trouble, voilé. Je suis infirmière, je le connais ce regard. C'est celui d'un handicapé cérébral. Et moi, dans ses yeux, je cherche son âme. Je l'ai remarqué tout de suite. Il enroule les bras. Je l'ai appris en module de neurologie. C'est le signe d'une souffrance intense.
Vous voyez pas qu'il enroule les bras ?
Ne vous inquiétez pas, madame. J'ai déjà vu des personnes faire ça, et finalement, elles s'en sont bien sorties.
Non. Je suis infirmière, moi aussi.
Je sais très bien ce que ça veut dire. Son cerveau est gravement endommagé.
Nous ne baisserons pas les bras, mon amour. Je ne t'abandonne pas. Nous sommes mariés pour le meilleur et pour le pire. Et dans le pire, je te donnerai le meilleur.
Ils sont tous là chez moi, les Lambert. La mère de Vincent, Viviane, a organisé une réunion de famille autour d'un café. Je trouve que ça ressemble trop à ces réunions qu'on organise après les funérailles. Chacun y va de son bon souvenir de Vincent, comme si on venait de l'enterrer. Je suis pas à l'aise avec ça. Ma place n'est pas là. Ma place est auprès de lui, près de son lit. La petite tousse beaucoup en ce moment. Je l'emmène aux urgences. Bronchiolite. Il faut l'hospitaliser. Et maintenant, quelques couloirs séparent Vincent de sa fille. Et je fais des allers-retours entre les deux. On me dit, oh ben, tu n'as qu'à le mettre sous tutelle.
Ah non. Non, pas sous tutelle. Pas au bout de 3 semaines. C'est trop tôt. Je veux pas qu'on cloue Vincent sur un lit d'hôpital. Je veux pas.
Ça me coûte. Mais avec un notaire, j'obtiens d'un juge de représenter Vincent légalement. Les médecins m'ont demandé de le stimuler. Et Vincent adore le chanteur des Pink Floyd, David Gilmour. Alors je lui mets la chanson de notre mariage.
Je crois entendre encore caché sous les palmiers sa voix tendre et sonore.
Vincent, donne-moi une fois encore ta voix tendre et sonore.
Je vaporise quelques touches du parfum de notre fille sur son oreiller et j'approche son doudou un peu plus près.
Le 5 janvier 2009, un peu plus de 3 mois après l'accident, Vincent est transféré au service de neurologie. En réanimation, les enfants n'étaient pas acceptés. Ici, c'est possible.
Ma chérie, voilà ton papa.
Je la pose sur ses jambes. Je lui fais sentir ses petits pieds.
J'ai fait une demande de transfert dans le centre de rééducation de Berck, dans le Pas-de-Calais. On m'a dit qu'ils font là-bas un travail remarquable auprès des traumatisés crâniens. J'attends une place. Attendre.
Ça y est, il a été accepté à Berck. Il faut partir pour 3 mois et demi. J'ai loué un petit appartement là-bas. Entre deux visites, je vais marcher sur la plage. Le 3 avril, 6 mois après l'accident, je fête mon premier anniversaire sans Vincent.
Les Lambert ont organisé l'anniversaire du père à Berck. Ils ont privatisé un restaurant.
Ah ben oui. Comme ça, nous faisons d'une pierre deux coups. Nous pourrons partager un repas de fête et puis ceux qui veulent pourront rendre visite à Vincent.
C'est décalé. J'essaye de faire bonne figure, hein, de représenter Vincent à ce repas, mais c'est décalé. Je ne comprends pas que les autres ne souffrent pas de la même façon que moi. Qu'ils ne se privent pas des plaisirs de la vie.
Je suis auprès de Vincent. J'effleure sa joue, je caresse son bras.
Et soudain, il bouge une jambe, beaucoup plus haut que d'habitude.
Vous avez vu? Il lève la jambe haut.
Oh, vous savez, ça n'est quasiment jamais par les membres inférieurs que les premiers signes de réveil se manifestent.
Après 3 mois à Berck, Vincent a été prolongé de 2 semaines. Mais il n'y a aucun signe d'éveil. Il faut laisser la place. Laissez la place à ceux pour qui les médecins espèrent encore. Nous voilà donc de retour en Champagne, à Reims, au CHU. À Berck, nous nous battions pour quelque chose. Ici, je n'attends plus grand-chose, ni en bien, ni en mal. On me demande. Madame Lambert, s'il se passe quelque chose, est-ce qu'on doit tenter de réanimer votre mari? C'est la première fois que je suis confronté à cette question.
Non.
Non, on ne réanime pas. C'est la phrase la plus dure, la plus forte que j'ai prononcée de toute ma vie. Un an. Ça fait un an. Son état est stationnaire. Il est toujours là, immobile dans son lit. Parfois, je me surprends à y croire encore. Le médecin me dit, tant que la première année n'est pas écoulée, il y a encore de l'espoir. Tenir bon, ne pas baisser les bras. La petite a fait ses premiers pas depuis quelques jours. Et elle a fait ses premiers pas dans le parc de l'hôpital. Après 2 ans de statu quo, nous voilà maintenant en Belgique, au Coma Science Group de Liège. Ce sont les parents Lambert qui m'ont parlé de cet endroit. Évidemment, ça n'est pas pris en charge par la sécurité sociale. Vincent a une sonde à oxygène reliée à un ordinateur. Et ce matin, on lui a mis des écouteurs sur les oreilles. Monsieur Lambert, vous pouvez faire cesser la musique par votre respiration. Vous pouvez y arriver. Allez-y. Aucune réaction. Alors je propose d'essayer.
Vincent? C'est moi, Rachel. Tu m'entends? Il faut qu'en respirant, tu arrives à faire cesser la musique.
Et la musique s'arrête? Avec moi, ça fonctionne.
Il sait que je ne l'abandonne pas. Je sais qu'ils ne vont pas le guérir, mais je veux aller jusqu'au bout. Je ne veux pas avoir de doute. Je ne veux pas avoir de regret. Le professeur Loret, qui dirige le service, nous convoque pour un bilan. Moi et ses parents.
Madame Lambert, nous avons donc diagnostiqué un état de conscience minimal plus, je dirais. C'est-à-dire que Vincent perçoit la douleur. C'est tout.
Et à la fin, il prononce le mot encore tabou en France. Euthanasie. Il a l'air de considérer que la décision doit être prise par moi. Mais moi je me sens pas du tout capable de décider toute seule. Lui, je suis sûr qu'il aurait voulu. Sur mon portable, il y a encore l'annonce d'accueil avec la voix de Vincent. J'ai pas pu enregistrer un nouveau message par-dessus. Je l'écoute. Ça me fait du bien. On vient de commencer l'orthophonie, plusieurs fois par semaine. Une spécialiste vient lui mettre des saveurs sur le bout de la langue et elle espère une réponse. 97 séances plus tard, il ne s'est rien passé. Rien. Début 2013, ça fait presque 4 ans et demi. Les médecins me convoquent.
Est-ce qu'il vous a dit avant l'accident ce qu'il souhaitait qu'on fasse dans une telle situation?
Oui, on en a parlé l'année de notre mariage. Il a été très clair. Il a employé des mots très crus. Plutôt être piqué que de rester en vie comme un légume. Il l'a dit. Pour la première fois, les médecins me parlent de la loi Leonetti. Ils me disent que leur décision n'est pas encore prise, qu'ils entament seulement leur réflexion. Ça y est, ils ont arrêté leur décision. Ils vont engager un protocole de fin de vie. Sa nutrition sera arrêtée à partir du 10 avril, puisque c'était sa volonté. Pas la mienne, hein? La sienne. Ils ont convoqué sa mère. En sortant, elle m'interpelle.
Est-ce que je peux te parler?
Elle me fait des reproches. Tout y passe. C'est une double peine. Je dois accepter en même temps l'arrêt du traitement, un pas de plus vers la mort, et supporter son hostilité.
Le 10 avril 2013, le protocole de fin de vie est enclenché. On arrête la nutrition. Il est calme, apaisé. Une semaine passe, puis 2 semaines. Personne dans la famille Lambert ne s'est manifesté. Et le 25 avril...
Bonjour madame.
Sachez que monsieur et madame Lambert ont mandaté un huissier de justice pour contraindre l'équipe médicale à reprendre le traitement.
Je viens de recevoir un coup de fil de la police. Ils veulent m'entendre dans le cadre d'une plainte contre X des parents pour tentative d'assassinat. L'officier de police judiciaire me dit
« Madame, si un jour votre fille veut des explications, donnez-lui mon nom, hein ? Je lui dirai que vous n'êtes pas responsable du décès de son papa, d'accord ?»
Le 10 mai, les parents font une requête en référé devant le tribunal contre la décision des médecins d'arrêter la nutrition et l'hydratation.
Par ordonnance du 11 mai, le juge constate l'atteinte grave et immédiate à la vie de M. Vincent Lambert et ordonne sa réalimentation immédiate ainsi que tous les soins nécessités par son état.
Le cauchemar continue. J'ai reçu dans ma boîte aux lettres une lettre d'une amie de la mère de Vincent. Elle raconte qu'elle a prié à l'église et que pendant sa prière, elle a entendu un petit garçon pleurer parce qu'il avait mal au ventre et elle a fait le rapprochement avec l'arrêt de la nutrition de Vincent. Elle m'accuse de vouloir le tuer. Le père Lambert est un ancien gynécologue opposant dans les années 70 à la loi Veil sur l'IVG. Et sa mère est proche de la fraternité Saint-Pédis, des catholiques traditionnalistes non reconnus par le Vatican. Ils ont donné mon adresse mail à un prêtre. Et il m'a écrit. Il m'a écrit que ma fille sera traumatisée à vie. Quelques jours après la reprise du traitement, une photo paraît dans le journal L'Union. On y voit une belle sœur de Vincent penchée sur son lit qui lui tend un tableau représentant un oiseau crayonné. C'est une mise en scène qui veut faire croire à une communication. Le week-end de la reprise du traitement, j'entends l'avocat des parents Lambert sur Radio Courtoisie.
Je vous confirme que je suis allé dans sa chambre. Il a reconnu ses parents. On a le sentiment qu'il nous a reconnus.
Et il part de sa plaidoirie à l'audience qui a décidé la reprise du traitement.
Oh, j'étais habité. Honnêtement, je ne pense pas avoir plaidé seul. Enfin, le ciel était avec moi.
L'affaire prend une tournure religieuse. Des sites internet comme Riposte catholique ou le blog Pro-Life de Jeanne Smith écrivent que Vincent est sauvé, qu'il commence à reprendre des forces, qu'il a souri quand ses parents sont venus le voir dans sa chambre. Mais comment cette femme peut s'approprier mon mari, Vincent, sans le connaître? Je n'en peux plus. Je suis épuisé.
Janvier 2014. Le tribunal administratif de Châlons se prononce contre la décision des médecins. Il leur enjoint de maintenir l'alimentation et l'hydratation. Je suis sonné. J'enrage contre le système. Le 21 janvier, je saisis le Conseil d'État. Entre le 5 mars 2014 et le 11 avril, Vincent est soumis à 9 reprises à des tests réalisés par 3 experts en neurosciences. Leur rapport décrit un pronostic clinique sans espoir. Il est en état végétatif. Il ne ressent rien. Il ne communique pas. La seule chose qu'il ressente est une souffrance neurologique.
Le 24 juin 2014, le Conseil d'État rend sa décision par la voix de son vice-président.
Les conclusions claires et unanimes du collège d'experts mentionnent que le patient est atteint de lésions cérébrales irréversibles. Vincent Lambert avait clairement et à plusieurs reprises exprimé le souhait de ne pas être artificiellement maintenu en vie. L'ensemble de ces informations on conduit le Conseil d'État à estimer que l'arrêt des traitements correspondait à sa volonté.
Je vous remercie. » Mais immédiatement, l'avocat des parents annonce un recours devant la Cour européenne des droits de l'homme. Cette histoire est sans fin. L'audience devant la Cour européenne a lieu en janvier 2015. L'arrêt intervient en juin. La Cour valide par 12 voix contre 5 la décision du Conseil d'État qui autorise l'arrêt des traitements. Vincent va pouvoir partir. Enfin.
Je crois entendre encore caché sous les palmiers sa voix tendre et sonore comme le chant de rein.
De Rachel et Vincent, chanson de David Gilmour, adaptée, le chanteur des Pink Floyd, adaptée Les Pêcheurs de Perles de l'opéra de Bizet, la fameuse chanson de Nadir. J'ai écrit cette histoire à partir du livre de Rachel Lambert. Vincent, parce que je l'aime, je veux le laisser partir. Je vous le redis, je vous raconterai la même histoire demain, adaptée du livre de sa mère qui s'oppose totalement à Rachel, l'épouse de Vincent, Pour la vie de mon fils, paru chez Plomb.
Retrouvez Christophe Ondelatte 7 jours sur 7 de 14h à 15h sur Europe 1 et en podcast sur europe1.fr.
Il n'est pas question ici de juger, mais de commenter. Et j'ai demandé à un médecin spécialiste d'éthique médicale, le docteur Grégoire Moutel du CHU de Caen, d'être avec moi au téléphone. Docteur, j'ai évidemment quelques questions à vous poser. La première, à l'écoute du récit que je viens de faire,
Est-ce qu'il vous semble que les conditions de la loi Leonetti ont été parfaitement respectées dans cette affaire ?
Oui, bonjour Christophe Ondelatte et bonjour aux auditeurs. Avant de répondre à votre question, juste une petite précision, parce qu'il faut être, je pense, un peu légitime pour quand on s'exprime. Donc moi, je voulais juste dire que j'étais professeur de médecine légale et de droit de la santé, ce qui va me permettre, en plus de mes compétences dans le champ de l'éthique, de répondre à votre question. Alors effectivement, du point de vue du droit et de l'état de la loi, on peut dire que le process a été totalement respecté et que la situation actuelle de Vincent Lambert rentre totalement dans le cadre de la loi, la preuve étant que les plus hautes instances juridiques de notre pays, d'ailleurs, l'ont validé.
Mais comment expliquer alors, docteur, qu'un tribunal ait dit en 2013 que non, on ne pouvait pas arrêter la nutrition et l'hydratation, et qu'il fallait reprendre le processus de soutien à Vincent Lambert, si déjà, en 2013, rien n'a bougé depuis, le processus avait été respecté?
Alors moi, j'explique à mes étudiants en santé que le propre du droit est de gérer et d'arbitrer des conflits. Et donc, le fait qu'une affaire puisse être portée en justice et que la loi, dans son interprétation, puisse être questionnée, relève voilà, de la démarche la plus démocratique. Donc moi, je trouve que notre pays devrait s'honorer de ce constat-là.
Oui, mais sauf, que,
si
le tribunal,
disent que, ça a
sauf
été long.
Que le tribunal conclut que la loi n'est pas respectée.
Alors vous savez, la justice est humaine, comme on dit, hein, et vous savez que les processus judiciaires, il ne m'appartient pas à moi de critiquer une décision de justice, mais on sait qu'en droit, la justice étant humaine, une décision peut être prise par un tribunal et une décision contraire peut être prise par un autre, car il s'agit d'interprétations complexes hein, sur une décision médicale, avant tout, et la décision médicale peut donner lieu à des interprétations parfois contradictoires, effectivement.
Ça n'est pas le signe qu'il y a une faille dans la loi Leonetti qui apparaît au grand jour lorsqu'un conflit éclate dans une famille?
Alors, une des failles de la loi Leonetti, même si la loi Leonetti est objectivement une loi intéressante puisqu'elle a permis de faire progresser notre pays sur la question de la décision des soins, c'est effectivement la hiérarchisation de la valeur de la parole portée par les proches. Vous voyez bien qu'avant d'être une affaire juridique, cette histoire Lambert est une histoire d'un drame familial. Et puisque la parole du proche est portée du patient est porté par des proches. Quand les proches la portent de manière différente, la vraie question que doit trancher la justice, c'est où se trouve quelque part la vérité et la volonté du patient. Mmh. Et donc là, effectivement, il y a une faille, mais qui est une faille, je dirais, d'ordre humain. Je ne suis pas sûr que le droit puisse y répondre. Mmh.
Qui doit l'emporter? On a l'impression que la justice, là, donne la primauté à l'épouse contre les parents. Est-ce que c'est la logique juridique?
Alors, vous savez que dans le champ de la médecine et de la logique juridique, on dit que la parole du patient doit être portée par des personnes dites de confiance, hein, même si elles ne sont pas déterminées de ce point de vue-là, du point de vue du droit toujours, même si le droit peut désigner des personnes de confiance. Ce qu'on entend dans la médecine par personne de confiance, c'est la personne la plus proche à porter les volontés du défunt. Mmh. Et là aussi, je crois que dans le champ de l'éthique, il faut être prudent et ne pas juger ni la mère ni le reste de la famille de Vincent Lambert. Mais incontestablement, il semble que la parole, la volonté du défunt soit plus portée par son épouse que par sa mère.
Mmh. Mais il n'y a pas de règle qui dit c'est plus l'épouse que la mère.
Non, le droit n'établit pas la hiérarchie des proches, puisque vous voyez bien qu'en fonction des histoires familiales, des affects, eh bien, les choses sont très variables en fonction de chaque vie et de chaque famille.
La question du consentement de l'intéressé, donc en l'occurrence de Vincent Lambert, est au cœur de la loi Leonetti. Là, on n'a pas de consentement explicite de sa part. Il n'a pas laissé un papier dans lequel il dit « il ne faut pas s'acharner. S'il m'arrive quelque chose, il faut me piquer », comme il disait. Est-ce qu'on peut se contenter du récit que fait sa femme, de dire « il me l'a dit, je vous jure qu'il me l'a dit ».
Alors, c'est vrai que la valeur de la parole portée peut toujours être discutée. Ceci dit, le propre de l'exercice médical, c'est de faire confiance. Hein. Et donc, la notion de confiance, elle ne s'écrit pas, elle se ressent, elle se pressent, donc elle peut être contestable. Et c'est vrai que, de ce point de vue-là, ce qu'il manque dans le dossier Lambert, vous savez, c'est ce qu'on appelait les directives anticipées, c'est-à-dire des choses que les gens peuvent rédiger à l'avance pour faire un état de ce qu'ils souhaiteraient quand ils se trouveraient en pareille situation. Et là, dans ce dossier-là, nous n'en avions pas.
Donc la conclusion, c'est qu'il faut le faire. Il faut écrire quelque part ce qu'on veut qu'il advienne de son corps et de sa vie.
Alors il est compliqué de tout anticiper dans la vie, hein, bien évidemment, mais c'est vrai que les grandes lignes de ce que l'on souhaite, de ce qu'on ne souhaite pas, doivent être portées à la connaissance de ses proches et si possible à travers un écrit directive anticipée. Ça aide et ça guide les équipes soignantes dans leurs décisions.
L'accident intervient en 2008. La première tentative de processus de fin de vie intervient en 2013, déjà 5 ans après, et l'exécution de l'arrêt définitif de la Cour européenne des droits de l'homme intervient 11 ans après. Est-ce qu'au final, Cette décision ne devrait pas intervenir plus tôt. On a ranimé ce garçon. À partir du moment où on sait que les séquelles sont irréversibles, est-ce qu'il ne faut pas engager le processus de fin de vie très tôt, dans les 2 ans ou 3 ans maximum qui suivent l'accident ?
Alors, vous savez que le temps médical, bien sûr, n'est pas celui du temps de la justice. Et dans cette affaire, ce qu'il a emporté, c'est le temps de la justice. Il est clair que pour des équipes de soins, cette situation est d'une éminente violence pour tout le monde, hein, pour le proche, pour le patient et pour les soignants eux-mêmes, hein, c'est important de le dire. Et effectivement, ce qu'il faut rappeler, c'est que les réanimateurs sont parmi ceux qui sont battus, hein, pour obtenir la loi Leonetti, mais dans une logique très, on va dire, médicale. Donc, c'est-à-dire, on veut aller très loin dans les soins, on veut essayer de sauver la vie d'un individu. Donc le maximum de technologie et de chance de son côté, mais dès lors qu'on sera dans une situation d'échec, eh bien, on arrête et on limite les soins. Et c'est lors de cette limitation et de cet arrêt des soins, compte tenu du contexte familial, que les choses ne se sont pas faites sereinement et que voilà, les choses ont traîné ensuite en justice. Donc effectivement, cette affaire est un très mauvais exemple, on dirait, dans le champ de l'éthique médicale, quant à la qualité de la prise de décision. Mais encore une fois, c'est le fait du parcours juridique.
La totalité du problème, au fond... Vous nous dites ça aujourd'hui, vient du conflit familial. La question hors conflit aurait été réglée depuis longtemps.
Incontestablement. Il faut réajouter que c'est un conflit familial qui se double, on va dire, d'un conflit, et ceci de manière très démocratique, hein, idéologique et politique.
Mmh. Eh ben, on verra demain que la mère dit que non, que ça n'est qu'une mère qui dit qu'elle ne veut pas que son fils meure.
Alors soyons clairs, hein, mon propos n'est pas du tout de mettre en défaut la parole d'une mère. Hein. Une parole d'une mère, par définition, est toujours respectable. Mais c'est vrai qu'on est sur des sujets complexes qui concernent la décision de la vie et de la fin de vie. Et qu'en fonction de ses convictions, il est logique que les gens soient en désaccord. Et il y a des gens qu'on ne peut pas mettre d'accord. Et d'où l'intérêt d'un contrat social, le contrat social passant par la loi. Hein.
On ne pouvait pas faire mieux, autrement dit.
Dans ce contexte, il était difficile de faire mieux.
Merci beaucoup, docteur Grégoire Moutel, spécialiste d'éthique médicale, enseignant, professeur au CHU de Caen en Normandie. Donc
merci
demain,
à vous, Christophe Ondelat.
Nous reprenons la même histoire, je suis en train de l'écrire, je vous promets que c'est absolument passionnant, car si vous avez un avis avant, vous en changez en changeant d'histoire, suivez, faites cette expérience avec nous, écoutez la même histoire racontée par la mère de Vincent Lambert, Viviane Lambert, tiré de son livre Pour Larry, la vie de mon fils. Je vous souhaite une très bonne après-midi sur Europe 1. Je serai donc là demain à 2h. Salut.
Retrouvez Christophe Ondelat 7 jours sur 7 de 14h à 15h sur Europe 1 et en podcast sur Europe 1.fr.